Chapitre 7. Je voudrais, pour l'amour de Dieu, que Dorothée pût ne pas être instruite de cela, dit Sir James Chatham, avec son petit froncement de sourcils habituel et l'expression du dégoût le plus profond. Il s'adressait à M. Brooke, debout devant la cheminée de la bibliothèque de Lowick Manor, le lendemain de l'enterrement de M. Casaubon. Dorothée n'était pas encore en état de quitter la chambre. Ce serait difficile, Chatham, car elle est exécutrice testamentaire, et elle aime à s'occuper de ses choses, propriétés, terrains, etc. Elle a ses idées, vous savez, dit M. Brooke, rajustant son lorgnon d'un mouvement nerveux et examinant les coins d'un papier plié qu'il tenait à la main. Et comptez qu'elle voudra agir comme exécutrice testamentaire. Elle a eu 21 ans au mois de décembre dernier, vous savez. Je ne puis rien empêcher. Sir James fixa le tapis en silence pendant un instant, puis, levant brusquement les yeux, « Je vais, reprit-il, vous dire ce que nous pouvons faire. Jusqu'à ce que Dorothée soit bien remise, il faut la tenir éloignée de toute affaire, et aussitôt qu'elle le pourra, elle viendra s'installer chez nous. Rien ne peut lui être plus salutaire que de se trouver auprès de Célia et du petit enfant. Le temps passera de la sorte. Dans l'intervalle, vous vous débarrasserez de Ladislav. Il faut qu'il quitte le pays. » Ici, l'expression de dégoût de Sir James reparut dans toute son intensité. M. Brooke croisa ses mains derrière son dos et se dirigea vers la fenêtre en se redressant par une petite secousse avant de répondre « C'est facile à dire, Chatham, facile à dire, vous savez. » « Mon cher monsieur, insista Sir James, contenant son indignation dans des formes respectueuses, c'est vous qui l'avez amené ici. » Et c'est vous qui les gardez, je veux dire par l'occupation que vous lui donnez. Oui, mais je ne puis le congédier brusquement sans lui donner de raison, Chatham. Le concours de Ladislav a été inestimable, des plus satisfaisants. Je considère qu'en l'amenant ici, j'ai rendu un service à cette partie du comté. C'est grand dommage que cette partie du comté n'ait pu se passer de lui, c'est tout ce que je puis dire. Quoi qu'il en soit, je me sens autorisé, comme beau-frère de Dorothée, à m'opposer absolument à ce qu'il soit retenu ici, du fait des amis de Dorothée. Vous me reconnaissez, j'espère, le droit de me préoccuper de la dignité de la sœur de ma femme. » Sir James commençait à s'échauffer. « Sans doute, mon cher Chatham, sans doute, mais vous et moi avons des idées différentes, différentes. » « Pas à propos de cet acte de Casaubon, j'espère, » interrompit Sir James. Je dis qu'il a compromis Dorothée de la façon la plus ignoble. Je dis qu'il n'y a jamais eu d'action plus basse, plus indigne d'un gentleman. Un codicille pareil, ajouté à un testament fait au moment de son mariage, avec la connaissance et l'approbation de sa famille. C'est une insulte flagrante à Dorothée. Eh bien, vous savez, Casaubon était un peu ennuyé à propos de Ladislav. Ladislav m'en a dit la raison. Aversion pour la carrière qu'il a choisie, vous savez. Ladislav ne faisait pas grand cas des connaissances de Casaubon. Thoth et Dagon, le dieu égyptien et le dieu philistin, etc. Et je suppose que Casaubon n'aimait pas la situation indépendante qu'avait prise son cousin. J'ai vu les lettres qu'ils ont échangées. Ce pauvre Casaubon était un peu enterré dans ses livres. Il ne connaissait pas le monde. Il peut convenir à Ladislav de colorer ainsi les choses. Mais je crois que Casaubon ne lui en voulait qu'à cause de Dorothée. Et le monde pourra croire qu'elle lui en a donné des motifs. Et c'est cela qui est abominable, de voir son nom accolé à celui de ce jeune personnage. Mon cher Chatham, cela ne mènera à rien, dit M. Brooke, s'asseyant et remettant son lorgnon. Cela ne fait qu'un avec toutes les bizarreries de M. Casaubon. Or, ce papier, tableau synoptique et tout ce qui suit, à l'usage de Mrs. Casaubon, était enfermé à clé dans le pupitre avec le testament. Il entendait, je suppose, que Dorothée publia ses travaux. Et elle le fera, vous savez. Elle est entrée dans ses études d'une façon toute particulière. « Mon cher monsieur, dit Sir James avec impatience, ce n'est ni de ceci ni de cela qu'il s'agit pour le moment. La question est de savoir si vous êtes d'accord avec moi sur l'urgence qu'il y aurait à éloigner le jeune Ladislav. Eh bien non, je n'en vois pas l'urgence. Cela pourra se faire peu à peu. Et quant au bavardage du monde, vous savez, vous ne l'empêcherez pas pour cela. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, et non le chapitre et le verset qu'on leur désigne, dit M. Brooke, devenant pénétrant à l'endroit des vérités qui s'accordaient avec ses désirs. Je pourrais me débarrasser de Ladislav jusqu'à un certain point, lui enlever le pionnier et ce genre d'occupation, mais je ne pourrais exiger qu'il quittât le pays, à moins qu'il ne préférât s'en aller, vous savez. M. Brooke, persistant dans son idée, aussi tranquillement que s'il eût discuté la question du temps de l'année précédente, et terminant par de petits signes de tête avec son aménité ordinaire, offrait un spectacle exaspérant d'obstination. « Mon Dieu, » dit Sir James avec autant de passion qu'il était susceptible d'en témoigner, « trouvons-lui un poste quelconque. Dépensons de l'argent pour lui. S'il pouvait entrer dans le personnel de quelque gouverneur colonial, Grampus pourrait le prendre et je pourrais en écrire à Foulque. » Mais Ladislav ne se laissera pas embarquer comme une pièce de bétail, mon cher ami. Ladislav a ses idées. Mon opinion est que s'il me quittait demain, on n'en bavarderait que davantage sur son compte dans le pays. Avec son talent de parler et de classer les documents, il y a peu d'hommes qui pourraient l'égaler comme agitateur public. Agitateur public, vous savez. Agitateur public, fit Sir James avec une énergie amère, sentant que les syllabes de ces mots, répétées comme il convenait, témoignaient suffisamment de leur caractère odieux. Mais soyez raisonnable, Chatham. Parlons de Dorothée maintenant. Comme vous le dites, elle fera bien d'aller chez Célia le plus tôt possible. Elle pourra rester sous votre toit, et dans l'intervalle, les choses s'arrangeront peut-être tout tranquillement d'elles-mêmes. Ne déchargeons pas nos fusils avec trop de précipitation. Standish nous gardera le secret, et cette nouvelle sera de l'histoire ancienne avant d'être connue. 20 choses peuvent arriver pour éloigner Ladislav, sans que je fasse rien moi-même. Il me reste alors à conclure que vous refusez de rien faire. Refuser, Chatham, non, je n'ai pas dit refuser. Mais je ne vois réellement pas ce que je pourrais faire. Ladislav est un gentleman. Je suis heureux de l'apprendre, mais sûrement Casaubon n'en était pas un. Eh bien, c'eût été pire encore s'il avait fait un codicille qui empêcha Dorothée de se remarier comme elle l'entendrait, vous savez. Je ne trouve pas cela, dit Sir James. C'eût été moins indélicat. Une bizarrerie de ce pauvre Casaubon, cette attaque qui lui avait fait un peu chavirer la cervelle. Tout cela ne signifie rien. Elle n'a pas l'intention d'épouser Ladislav. Mais ce codicille est rédigé de façon à faire croire à tout le monde que c'était bien son intention. Je ne crois à rien de pareil de la part de Dorothée, dit Sir James en fronçant le sourcil. Mais Ladislav m'est suspect, je vous le dis franchement, Ladislav m'est suspect. Je ne puis prendre de mesures immédiates à ce sujet, Chatham. Le fait est que s'il était possible de l'expédier, de l'envoyer à l'île Norfolk, quelque part par là, cela n'en paraîtrait que plus blessant pour Dorothée, aux yeux des gens qui connaissent l'affaire. Il semblerait que nous nous défions d'elle. Cette allusion de M. Brooke à un argument indéniable ne contribua pas à adoucir Sir James. Il étendit la main pour prendre son chapeau, indiquant qu'il n'avait pas l'intention de discuter plus longtemps. Et il reprit avec quelque colère, « Eh bien, je n'ai rien à dire, sinon qu'à mon avis, Dorothée a été sacrifiée une première fois grâce à l'indifférence de ses amis. Comme frère, je ferai tout ce que je pourrai pour la protéger aujourd'hui. Vous ne pouvez mieux faire que de l'amener à Freshit le plus tôt possible, Chatham. J'approuve tout à fait ce plan, » conclut M. Brooke, enchanté d'avoir remporté l'avantage. Il eût été fort incommode pour lui de perdre Ladislav en ce moment, alors qu'une dissolution de la Chambre pouvait arriver d'un jour à l'autre, et qu'il fallait convaincre les électeurs des véritables intérêts du pays. M. Brooke croyait en toute sincérité que son entrée au Parlement était de nature à les servir efficacement. Il offrait honnêtement à son pays les ressources de ses facultés. Chapitre 8. Dorothée était restée à Freshit Hall dans une entière sécurité pendant près d'une semaine, avant de hasarder aucune question dangereuse. Elle se tenait tous les matins avec Célia dans le plus joli des salons du haut, ouvrant sur une petite serre. Célia, tout en blanc et mauve comme une touffe de violettes mélangées, observant les actes remarquables du bébé, encore si nouveau pour sa jeune expérience, et interrompant à chaque instant les conversations par des appels à l'oracle infaillible de la nourrice. Dorothée était assise à côté d'elle dans sa robe de veuve, avec une expression dont la tristesse agaçait quelque peu Célia. car non seulement le bébé était tout à fait joli, mais réellement, pour un mari qui avait été si ennuyeux et si gênant pendant sa vie, et qui en outre avait... Sir James avait naturellement tout raconté à Celia, en lui représentant avec énergie combien il était important que Dorothée n'en sût rien tant qu'on pourrait l'éviter. Mais M. Brooke avait eu raison de dire que Dorothée ne resterait pas longtemps inactive alors que l'action lui était imposée. Elle connaissait la teneur du testament de son mari, fait au moment de leur mariage, et dès qu'elle eut clairement compris sa situation, son esprit se préoccupa en silence de ce qu'elle aurait à faire comme propriétaire de Lowick Manor avec le patronage de la cure qui y était attachée. Un matin que son oncle lui faisait sa visite ordinaire dans une disposition particulièrement joyeuse, qu'il expliqua en disant que la dissolution du Parlement était presque certaine, Dorothée lui dit « Mon oncle, il serait bon de songer maintenant à qui je ferai don de la cure de Lowick. Depuis que M. Tucker a été pourvu, je n'ai jamais entendu dire à mon mari qu'il eût en vue aucun clergyman pour lui succéder à lui-même. Je devrais, je crois, prendre les clés et aller à Lowick pour examiner les papiers de mon mari. Il pourrait s'y trouver quelque chose qui nous éclaira sur ses désirs. » Pas de précipitation, ma chère. Peu à peu, vous savez, vous pourrez y aller si cela vous plaît. Mais j'ai jeté les yeux sur tous les papiers, il n'y avait rien, rien que les sujets profonds, sauf le testament. Tout pourra se faire peu à peu. Quant à la cure, j'ai déjà reçu une demande sollicitant ma protection, et je dirais une excellente demande. On m'a fortement recommandé M. Tyke. Je me suis occupé autrefois de lui faire obtenir un traitement, un homme apostolique, je crois. L'espèce d'homme qui vous conviendrait, ma chère. Je voudrais en savoir plus long sur lui, mon oncle, et voir par moi-même si M. Casaubon n'a pas laissé quelque mention de ses désirs. Peut-être a-t-il fait quelque addition à son testament. Il peut s'y trouver des instructions pour moi, dit Dorothée, qui avait toujours cette idée dans l'esprit au sujet de l'œuvre de son mari. Rien du tout en ce qui touche la cure, ma chère, rien du tout, dit M. Brooke, se levant pour sortir et tendant la main à ses nièces, ni en ce qui touche ses recherches, vous savez, rien du tout dans le testament. La lèvre de Dorothée trembla. Allons, ne vous préoccupez pas de ces choses-là, ma chère. Peu à peu, vous savez. Je me sens maintenant tout à fait bien, mon oncle, et je voudrais faire quelque chose. C'est bien, nous verrons. Mais il faut que je me sauve, j'ai du travail par-dessus la tête. C'est une crise politique. Et voici Célia et son petit bonhomme. Vous voilà tante maintenant. Et moi, je suis une espèce de grand-père, dit M. Brooke, se hâtant paisiblement, désireux de s'échapper et d'avertir Chatham que ce ne serait pas de sa faute à lui si Dorothée insistait pour tout examiner elle-même. Dorothée retomba au fond de sa chaise et ses yeux pensifs s'abaissèrent sur ses mains croisées. « Regarde, Dodo, regarde-le. As-tu jamais rien vu de pareil ?» dit Célia de son petit ton net et confortable. « Quoi donc, Kitty ?» dit Dorothée en levant les yeux d'un air distrait. « Quoi ? Mais sa lèvre supérieure ! Vois comme il la baisse, comme s'il voulait faire une grimace. N'est-ce pas étonnant ? Il a certainement ses petites pensées. Je voudrais que la nourrice fût là. Regarde-le. » Une grosse larme, qui s'était amassée peu à peu dans l'œil de Dorothée, roula le long de sa joue, tandis qu'elle levait les yeux et tâchait de sourire. « Ne sois pas triste, Dodo. Embrasse bébé. Qu'est-ce que tu médites ainsi ? Je suis bien convaincu que tu as tout fait, et même beaucoup trop. Tu devrais être heureuse à présent. » Je me demande si Sir James ne voudrait pas me conduire à Lowick pour y tout examiner et voir s'il n'a rien laissé d'écrit pour moi. Tu ne dois pas y aller tant que M. Lydgate ne te l'a pas permis. Et il ne te l'a pas encore permis. Ah, vous voici, nourrice. Prenez bébé et promenez-vous dans la galerie. Et puis, tu t'es mis une idée fausse, comme de coutume, dans la tête, Dodo. Je le vois bien, et cela me fâche. En quoi ai-je tort, Kitty ? Dit Dorothée avec une parfaite humilité. Elle était presque disposée maintenant à trouver Célia plus sage qu'elle-même. Et elle se demandait avec une certaine crainte quelle était son idée fausse. Célia sentait son avantage et était décidée à en profiter. Personne ne connaissait Dodo, et ne savait la prendre aussi bien qu'elle. Depuis la naissance de son bébé, Célia avait plus conscience encore de sa solidité d'esprit et de sa calme sagesse. Il paraissait clair que là où il y avait un bébé, les choses étaient bien dans l'ordre, et que l'erreur, en général, ne pouvait venir que de l'absence de ce centre de gravité. Je vois aussi clairement que possible à quoi tu penses, Dodo. Tu tâches de découvrir s'il n'y a pas quelque chose de désagréable à faire pour toi en ce moment, et uniquement parce que M. Casaubon le désirait. Comme si tu n'avais pas eu déjà assez de choses désagréables. Et il ne le mérite pas, tu le verras bien. Il s'est très mal conduit. James est aussi furieux contre lui qu'il est possible de l'être. Il vaut mieux que je te le dise pour te préparer. Célia, dit Dorothée d'un ton suppliant, tu me fais peur. Dis-moi tout de suite ce dont il s'agit. L'idée que M. Casaubon avait légué ses biens à un autre qu'à elle lui traversa soudainement l'esprit, et il n'y avait rien là de si affligeant. Eh bien, il a ajouté un codicille à son testament, pour dire que la propriété devait être enlevée tout entière dans le cas où tu épouserais, je veux dire... C'est absolument sans conséquence, interrompit Dorothée impétueusement. Je veux dire si tu épousais Ladislav. Cela ne concerne nulle autre personne, poursuivit Célia avec une calme obstination. Sans doute, cela est sans conséquence à un certain point de vue. Tu ne voudrais jamais épouser M. Ladislav, mais cela ne rend la chose que plus vilaine de la part de M. Casaubon. Le visage et le cou de Dorothée se couvrirent d'une rougeur douloureuse. Mais Célia lui administrait ce qu'elle pensait être une dose calmante de faits réels. Ce qui avait fait tant de mal à Dodo, c'était de se faire un tas d'idées. Elle continua donc de son ton indifférent, comme si elle eût fait des remarques sur les robes de bébé. C'est ce que dit James. Il dit que c'est abominable, et que ce n'est pas d'un gentleman. Il n'y a jamais eu meilleur juge que James. C'est comme si M. Casaubon voulait faire croire que tu désires épouser M. Ladislav, ce qui est ridicule. Seulement, James dit que c'était pour empêcher M. Ladislav de t'épouser pour ton argent. Comme s'il pouvait jamais penser à te demander en mariage. Mrs. Cadwallader a dit que tu pourrais aussi bien épouser un Italien qui montrerait des souris blanches sur la place publique. Mais il faut que j'aille voir ce que fait bébé, ajouta Célia, sans le moindre changement de ton, jetant un petit châle sur ses épaules et s'éloignant d'un pas léger. Dorothée eut pu comparer cette épreuve inattendue un vague et craintif sentiment que sa vie prenait une nouvelle forme, subissait une métamorphose où sa mémoire ne pouvait s'adapter au mouvement de nouveaux organes. Tout changeait d'aspect. La conduite de son mari, son propre sentiment de ses devoirs envers lui, toutes les luttes du passé et plus que tout cela, ses rapports avec Will Ladislav. Son monde à elle était dans un état de bouleversement convulsif. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'est qu'il fallait attendre d'être en état de réfléchir plus tranquillement. Le changement qu'elle constatait dans son être et qui la terrifiait comme un péché, c'était un mouvement de violente répulsion contre ce mari disparu qui avait eu des pensées cachées pour elle, qui avait peut-être dénaturé son langage et toute sa conduite. Et puis un autre changement qui la rendait également tremblante, c'était un étrange et soudain élan de cœur vers Ladislav. Jamais auparavant l'idée ne lui était venue qu'il pût, en aucune circonstance, devenir son amant. Et concevait l'effet de cette soudaine révélation qu'un autre avait considéré Will sous cet aspect nouveau, que peut-être lui-même avait entrevu une telle possibilité. À cela se mêlait encore l'idée rapide et confuse de conditions et de questions pleines de difficultés, et qui ne pouvait être éclaircie qu'avec le temps. Il lui sembla qu'il s'était écoulé un long intervalle lorsqu'elle entendit Célia qui disait « C'est bien comme cela, nourrice. Il va rester tranquille sur mes genoux à présent. Vous pouvez aller déjeuner. Aidez Agarath de rester dans la chambre à côté. » « Ce que je pense, Dodo, reprit Célia, ne remarquant rien de plus sinon que Dorothée était renversée au fond de sa chaise et sans doute distraite ou indifférente, ce que je pense, c'est que M. Casaubon était un mauvais homme. Je ne l'ai jamais aimé, et James non plus. Je trouve que les coins de sa bouche étaient affreusement méchants, et maintenant, après qu'il s'est conduit de cette façon, je suis bien sûr que la religion ne t'oblige pas à te rendre malheureuse à cause de lui. S'il a été enlevé, c'est une véritable grâce, et tu devrais en être reconnaissante. Nous ne devons pas nous en affliger, n'est-ce pas, bébé ? Dit confidentiellement Célia à ce centre de gravité inconscient de l'univers, qui avait les petits points les plus remarquables, achevé jusqu'aux ongles, et vraiment pas mal de cheveux si vous lui ôtiez son bonnet. En un mot, c'était Bouddha, sous une forme d'incarnation occidentale. À ce moment de crise, on annonça Lydgate, et ses premières paroles furent celles-ci. « Vous ne me paraissez pas aussi bien que vous l'étiez, Mrs. Casaubon. Avez-vous été agitée? Permettez-moi de vous tâter le pouls. » La main de Dorothée était froide comme du marbre. « Elle veut aller à Loïc examiner les papiers, » dit Célia. « Il ne faut pas qu'elle y aille. Dites, le permettez-vous ?» Lydgate ne répondit pas tout d'abord. Puis, regardant Dorothée, « Je ne sais pas vraiment, » dit-il. « À mon avis, Mrs. Casaubon doit surtout faire ce qui peut lui donner le plus de tranquillité d'esprit. Le repos ne vient pas toujours de ce qu'il ne nous est pas permis d'agir. »« Merci, » dit Dorothée, en prenant sur elle. « Ce que vous dites est certainement plein de raisons. Il y a tant de choses dont je devrais m'occuper. Pourquoi resterais-je ici inactive ?» Puis, faisant un effort pour revenir à des sujets étrangers à son agitation personnelle, elle ajouta brusquement « Vous connaissez tout le monde à Middlemarch, n'est-il pas vrai, Monsieur Lydgate ? J'aurais bien des choses à vous demander. Il s'agit pour moi d'affaires sérieuses. J'ai une cure à confier à quelqu'un. Vous connaissez Monsieur Tyke et tous les... » Mais l'effort avait été trop violent, et Dorothée éclata en sanglots. Lydgate lui fit respirer un flacon de sel. « Laissez faire Mrs. Casaubon comme il lui plaira, » dit-il à Sir James qu'il avait demandé à voir avant de quitter la maison. « Je crois qu'elle a plus besoin d'une parfaite liberté que de toute autre prescription. » Les soins qu'il avait donnés à Dorothée, pendant la crise qu'elle venait de traverser, lui avait permis de former quelques conclusions justes sur les épreuves de sa vie. Il ne doutait pas qu'elle eût souffert de l'effort, de la lutte douloureuse qu'entraîne la contrainte de soi-même, et qu'elle ne fît maintenant que se sentir dans une autre espèce de prison, après celle dont elle venait d'être délivrée. Sir James fut d'autant plus disposé à se ranger à l'avis de Lydgate quand il apprit que Célia avait déjà fait part à Dorothée de la désagréable clause du testament. Il n'y avait plus de raison désormais pour retarder davantage l'exécution d'affaires urgentes. Et le lendemain, Sir James accéda à sa demande de la conduire à Lowick. « Je n'ai pour le moment aucun désir d'y rester, » dit Dorothée. « C'est à peine si je pourrais le supporter. Je suis bien plus heureuse à Freshit avec Célia. J'y serai mieux pour réfléchir à ce qu'il convient de faire à Lowick. » En considérant les choses à distance. Je désire aussi rester un peu à la grange, avec mon oncle, et me promener dans tous nos chemins d'autrefois, au milieu des gens du village. Pas encore, il me semble. Votre oncle reçoit beaucoup d'hommes politiques, et vous êtes mieux éloigné de ces menées-là, dit Sir James, qui ne songeait pour le moment à la grange que comme à un repère hanté par le jeune Ladislav. Mais nulle parole ne fut échangée entre lui et Dorothée sur la partie reprochable du testament. Chacun d'eux, sans doute, sentant qu'il lui serait impossible d'en parler. Sir James était timide, même avec les hommes, quand il s'agissait de sujets désagréables. Et la seule chose que Dorothée eût voulu en dire lui était interdite, parce que c'eût été une nouvelle preuve de l'injustice de son mari. Elle voulait pourtant que Sir James fût instruit de ce qui s'était passé entre elle et lui concernant les droits moraux de Will Ladislav à la propriété. Alors, pensait-elle, il verrait clairement comme elle que cette clause étrange et indélicate avait son origine surtout dans son aigre résistance à l'idée de ce droit, et pas uniquement dans des sentiments personnels dont il était plus difficile de parler. C'était aussi pour Will, il faut l'avouer, que Dorothée souhaitait que cela fût connu, puisque ses amis ne semblaient le considérer que comme l'objet de charité de M. Casaubon. Pourquoi le comparerait-on à un Italien montreur de souris blanches? Ce mot de Mrs. Cadwallader semblait une parodie dérisoire tracée par la main d'un démon. À Lowick, Dorothée chercha dans les pupitres et les tiroirs, partout où son mari déposait ses manuscrits. Mais elle ne trouva pas d'autre papier s'adressant particulièrement à elle que ce tableau synoptique, commencement sans doute de bien d'autres instructions projetées pour sa gouverne. En léguant ce travail à Dorothée, M. Casaubon avait été, comme en toute chose, lent et hésitant, oppressé en faisant un plan pour transmettre son œuvre, comme il l'avait été en l'exécutant, par le sentiment de sa pesanteur à se mouvoir dans un milieu obscur et plein d'obstacles. Il se défiait des capacités de Dorothée, mais il se défiait plus encore de tout autre rédacteur. Et il en était venu enfin à se créer pour lui-même une sorte de confiance dans la nature de Dorothée. Ce qu'elle aurait une fois résolu, elle était capable de l'exécuter. Il se la représentait volontiers, travaillant et peinant dans les chaînes de la promesse qu'il lui aurait arrachée pour élever un monument où serait inscrit son nom à lui. Mais les jours et les mois gagnaient sur lui et laissaient ses plans en arrière. Il n'avait plus que le temps d'exiger cette promesse qui lui permettrait de conserver toujours sa froide étreinte sur la vie de Dorothée. L'étreinte avait glissé. Liée par une promesse arrachée au plus profond de sa pitié, elle eût été capable d'entreprendre un labeur que son jugement lui disait tout bas devoir être inutile et sans autre but que cette consécration de la fidélité qui est elle-même un but suprême. Mais son jugement, affranchi maintenant de la soumission et du dévouement, faisait l'amère découverte que dans son union passée, le soupçon et la dissimulation n'avaient pas cessé de se tenir aux aguets. L'homme vivant et souffrant n'était plus devant elle pour éveiller sa pitié. Il ne restait que le pénible souvenir d'une soumission douloureuse à un mari dont les pensées basses venaient de lui être révélées. À un mari qui, dans ses soins scrupuleux à maintenir son caractère aux yeux du monde, aveuglé par ses prétentions exorbitantes, avait fini par porter lui-même un coup fatal à son orgueil, en froissant les sentiments de l'honneur le plus vulgaire. Quant à la propriété, elle eût été heureuse de s'en débarrasser et de rester avec sa fortune personnelle. N'eussent été les devoirs attachés à sa qualité de propriétaire, devoirs qu'elle ne pouvait négliger. Plus d'une question perplexe agitait son esprit au sujet de cette propriété. N'avait-elle pas eu raison de penser que la moitié en revenait à Ladislas? Aussi bien, il lui était impossible maintenant d'accomplir cet acte de justice. M. Casaubon avait choisi pour l'en empêcher un moyen cruellement efficace. Malgré l'indignation qu'elle se sentait au cœur contre lui, tout acte qui eût ressemblé à un défi triomphant au désir de son mari la révoltait. Ayant rassemblé des papiers d'affaires avec l'intention de les examiner, elle referma à clé les pupitres et les tiroirs, tous vides de toute parole exprimant pour elle un sentiment personnel, vides de tout signe que dans sa méditation solitaire, le cœur de son mari se fût jamais élancé vers le sien pour s'excuser ou s'expliquer. Et elle revint à Fréchette avec le sentiment que sur sa dernière et cruelle demande, comme sur le dernier et injurieux témoignage de son pouvoir, régnait un silence absolu. Dorothée alors essaya de tourner ses pensées vers de devoirs immédiats, et il y en avait un en particulier que les autres étaient déterminés à lui rappeler. Lydgate avait saisi avidement l'idée de la cure de Lowick, et dès qu'il le put, il reprit le sujet avec Dorothée, y voyant une possibilité de faire réparation à Fairbrother du tort qu'il avait pu lui faire en votant contre lui d'une conscience mal satisfaite. « Au lieu de vous rien apprendre sur M. Tyke, dit-il, je voudrais vous parler d'une autre personne, de M. Fairbrother, le vicaire de Saint-Botolph. Son bénéfice est fort maigre et ne lui fournit qu'un revenu bien exigu pour lui et sa famille. Sa mère, sa tante et sa sœur vivent toutes trois avec lui et sont à sa charge. Je crois que c'est à cause d'elle qu'il ne s'est point marié. Je n'ai jamais entendu mieux prêcher que par lui. Une éloquence si naturelle et si facile. Il eût été digne de prêcher à la croix de Saint-Paul après le vieux Latema. Sa parole est également belle sur tous les sujets, original, simple, clair. C'est, à mon avis, un homme remarquable. Il aurait dû faire plus qu'il n'a fait.
Pourquoi n'a-t-il pas fait plus ? Dit Dorothée, qui s'intéressait maintenant à tout ce qui avait glissé dans la vie au-dessous de leur véritable vocation.
C'est là une question embarrassante, dit Lydgate. Je trouve moi-même qu'il est extraordinairement difficile de faire marcher le bon ressort. Il y a tant de cordes qui se tirent à la fois. Fairbrother laisse entendre souvent qu'il s'est trompé dans le choix de sa profession. Il a besoin de plus d'espace qu'il n'en est accordé à un pauvre homme d'église. Il aime beaucoup l'histoire naturelle et toute espèce d'études scientifiques. Il a bien de la peine à concilier ses goûts avec sa situation. Il n'a pas d'argent de reste. À peine en a-t-il suffisamment pour ses besoins. Et c'est pour cela qu'il s'est mis à jouer. On joue beaucoup le whist ici, à Middlemarch. Il joue pour gagner et gagne pas mal. Il se trouve entraîné naturellement dans une société un peu au-dessous de lui et amené à négliger certaines choses. Et néanmoins, à le considérer dans l'ensemble, je crois que c'est un des hommes les plus exempts de blâme que j'ai jamais connu. Il n'y a en lui ni venin ni duplicité, et ces défauts-là accompagnent souvent les dehors les plus corrects.
Je me demande si au fond de sa conscience, il souffre de cette habitude, dit Dorothée. Je me demande s'il souhaiterait d'y renoncer.
Il y renoncerait, je crois, bien volontiers, s'il se trouvait tout à coup dans l'aisance. Il serait heureux de faire un autre emploi de son temps.
Mon oncle m'assure qu'on parle de Tyke comme d'un homme apostolique, dit Dorothée, un peu pensive. Elle eût souhaité de faire revivre, si possible, les âges de la foi primitive. Et pourtant, elle songeait à M. Fairbrother avec un ardent désir de l'affranchir de ce besoin d'argent gagné au jeu.
Je ne prétendrai pas que Fairbrother soit apostolique, répondit Lydgate. Sa mission n'est pas absolument celle des apôtres. C'est un pasteur au milieu de ses paroissiens dont il doit s'efforcer de rendre la vie meilleure.
Ce qu'on appelle aujourd'hui apostolique me paraît représenter en pratique une impatience de toute chose, où le pasteur ne joue pas le rôle principal.
M. Tyke m'en offre un exemple à l'hôpital. Une bonne partie de sa doctrine consiste à faire désagréablement sentir sa présence aux gens par une espèce de pincure douloureuse. Et puis, un homme apostolique, à Lowick, il faudrait qu'il eût la foi de saint François d'Assise et qu'il pût croire utile de prêcher aux moineaux. C'est vrai. Il est pénible de voir le genre de notions que retirent nos fermiers et nos laboureurs des instructions qu'on leur donne. J'ai feuilleté un volume des sermons de M. Tyke. Ces sermons-là ne serviraient à rien à Lowick. J'ai bien souvent pensé aux différentes manières d'instruire les chrétiens, et dès que j'en trouve une qui me semble plus bienfaisante que les autres, je m'y attache comme à la plus vraie, je veux dire celle qui contient plus de bien dans tous les genres, et qui attire le plus de monde à la participation de ce bien. Il vaut certainement mieux trop pardonner que trop condamner. Mais je voudrais voir M. Fairbrother et l'entendre prêcher.
Faites-le. J'ai confiance dans l'effet qu'il vous produira. Il est très aimé, mais il a aussi ses ennemis. Il se trouve toujours des gens qui ne peuvent pardonner à un homme de mérite de ne pas leur ressembler. C'est vraiment une tâche pour son nom que cette manière de se faire de l'argent au jeu. Vous voyez naturellement peu de personnes de Middlemarch, mais M. Ladislav, qui voit constamment M. Brooke, est un grand ami des vieilles dames de chez M. Fairbrother, et il serait heureux de chanter les louanges du vicaire. L'une de ces vieilles dames, Miss Noble, la tante, est l'image la plus gracieuse que l'on puisse voir de la bonté oublieuse d'elle-même, et Ladislav la pilote parfois galamment dans ses courses. Vous connaissez bien de vue Ladislav, une espèce de Daphnis en abbé et en gilet. Rien de si drôle que cette petite vieille fille se haussant jusqu'à son bras. Ils ont l'air d'un couple pris dans une comédie romantique. Mais le meilleur témoignage en faveur de Fairbrother, c'est de le voir et de l'entendre. C'est dans le petit salon particulier de Dorothée que cette conversation eut lieu. Et il n'y avait là personne dont la présence pût lui rendre pénible cette mention du nom de Ladislav, faite bien innocemment par Lydgate. Ne s'occupant pas des bavardages, il avait tout à fait oublié la remarque de Rosemonde à propos de l'adoration de Will pour Mrs. Casaubon.
Il ne songeait, pour le moment, qu'à ce qui recommandait la famille Fairbrother. Et il avait insisté à dessein sur ce qu'on pouvait atténuer de pire contre le vicaire, afin de prévenir les objections. Il avait à peine vu le secrétaire intime de M. Brooke pendant les semaines qui venaient de s'écouler depuis la mort de M. Casaubon. Et il n'avait rien entendu de nature à l'avertir qu'il y eût de ce côté un sujet dangereux à aborder avec sa veuve. Après qu'il l'eut quitté, l'image de Ladislav, telle qu'il l'avait fait paraître à ses yeux, demeura flottante dans l'esprit de Dorothée, détournant un peu ses pensées de la question de la cure de Loïc. Qu'est-ce que Will pouvait bien penser d'elle? Apprendrait-il ce fait, dont la seule idée lui empourprait soudainement les joues, à elle qui ne rougissait pas d'ordinaire? Et que ressentirait-il en l'apprenant? Mais ce qu'elle voyait aussi distinctement que possible, c'était la façon dont il souriait du haut de sa grande taille à la petite vieille fille. Un Italien avec des souris blanches. Lui, une créature qui entrait dans les sentiments de chacun et qui savait recevoir l'empreinte de la pensée des autres au lieu de leur imposer la sienne avec la résistance du fer.